Vous êtes avec SBS French.
Et on commence avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Les incendies dans le pays qui continuent alors que la température continue de monter dans certaines parties. Une nouvelle réforme du monde de l'hôpital en France. Le gouvernement essaye de calmer la gronde du monde hospitalier. Et à Malte, l'arrestation spectaculaire d'un millionnaire sur son yacht dans l'enquête du meurtre d'une journaliste. Début de ce journal avec les incendies donc dans le pays. Les autorités ont mis un terme au feu qui menaçait Edith Burgh, c'était ce matin. Mais les équipes devront renforcer les lignes de contrôle aujourd'hui. Le Country Fire Service a déclaré que l'incendie de Yorkton dans le sud de l'Australie avait brûlé près de 4000 hectares et qu'il restait encore beaucoup à faire pour le gérer. Donc il n'est pas encore sous contrôle. Le chef adjoint par intérim du service, Rob Sanford, a déclaré que l'étendue des dégâts n'avait pas encore été complètement confirmé, mais rappelait aux résidents que la saison des incendies venait tout juste de commencer. On l'écoute.
Well, we're not actually into summer yet. We're still in spring. So, and as we've seen in the eastern states, the early starts of the season that they've had, and now an early start for our season. This is only the start of it. So, we're the 3-month outlook from the bureau saying it's going to be above average temperatures and below average rainfall for the next 3 months.
Voilà donc le chef adjoint par intérim du service des pompiers, Rob Sanford. Les interdictions de faire des feux sont maintenues à travers toute la Nouvelle-Galles du Sud. 50 incendies continuent de se propager dans l'État. Un nuage de fumée plane au-dessus de Sydney, vous êtes sûrement rendu compte si vous habitez donc Sydney. Et plus de 1000 pompiers sont sur le terrain. Dans le Victoria, les autorités exhortent les habitants des zones à risque à se rendre ou en tout cas de connaître où se situe leur centre régional le plus proche. Il y a des alertes météo pour la majeure partie de l'État dans le Victoria. Les températures pourraient dépasser les 40 degrés aujourd'hui. Les mesures anti-incendie ont été annoncés jeudi et le chef des pompiers par intérim, Rohan Scott, dit que c'est une précaution. On l'écoute.
At the moment, it's only for the 24-hour period. Our fire danger rating goes to very high for Friday, Saturday and Sunday predicted at this stage. And there's no trigger for us to declare a total fire ban.
Voilà donc pour le sujet des incendies en Australie. Faites attention donc et restez à l'écoute de vos radios locales. En France maintenant, le grand titre de l'actualité, c'est le nouveau plan d'urgence pour l'hôpital public. C'est le troisième en 6 mois. Alors que la gronde monte une nouvelle fois, une grande partie des services d'urgence parisiens et qui tente à s'étendre maintenant à travers tout le pays. L'objectif est donc clair de ce plan, c'est bien de ramener le calme et de calmer les colères des personnels hospitaliers. Les explications de Julien Javanne.
Emmanuel Macron l'avait lui-même reconnu la semaine dernière. Les plans d'Agnès Buzyn n'étaient pas à la hauteur, pas assez rapides après 8 mois de crise dans les hôpitaux publics. Alors ce matin, Édouard Philippe l'a assuré, le gouvernement a maintenant bien compris le message du personnel soignant.
Nous avons entendu leur colère, nous avons entendu leur épuisement, nous avons entendu leur désarroi. L'idée de ce plan, c'est de redonner de l'oxygène à cette communauté des soignants.
Et cette bouffée d'oxygène va passer notamment par des primes, une par exemple de 800 euros net pour 40 000 infirmiers et aides-soignants qui vivent à Paris ou en proche banlieue, ce qui représente un gain d'environ 66 euros par mois. Autre annonce, le budget des hôpitaux va bénéficier d'un coup de pouce d'1,5 milliard d'euros sur 3 ans. Troisième point, peut-être le plus marquant, comme il l'avait fait avec la SNCF, l'État va reprendre d'ici 3 ans 10 milliards d'euros de la dette des hôpitaux, soit un tiers de cette dette. Le gouvernement n'a donc pas hésité à remettre la main à la poche pour essayer d'éteindre l'incendie dans l'hôpital public et tenter de faire baisser la température sociale à l'approche de la manifestation du 5 décembre sur les retraites.
Et c'était donc Julien Chavannes. Une réaction d'ailleurs sur ce sujet, celle d'une infirmière de l'hôpital Saint-Antoine. Elle est d'ailleurs la secrétaire générale FO de cet hôpital. Pour Aïcha Hakoun, tout cela reste insuffisant. On l'écoute.
On avait demandé une augmentation nette de 300 euros. On est loin du compte puisque c'est 800 euros par an net, ce qui ne correspond pas du tout à nos attentes. On est très très loin, très très loin du compte. Et encore, c'est même pas une augmentation des salaires, ce sont des primes. C'est pas du tout ce qu'on a demandé. Elle nous a encore une fois pas entendu. Ce gouvernement n'entend pas. Il dit écouter, mais il n'entend absolument rien des préoccupations des personnels de santé.
13h06, direction la Grande-Bretagne maintenant. Un ancien attaché de presse de la reine a déclaré que le départ du prince Andrew de ses fonctions publiques était tout simplement inévitable en raison de ses liens controversés avec Jeffrey Epstein. Le prince britannique, donc Andrew, a demandé à la reine s'il pouvait se retirer des fonctions publiques, citant son association avec donc Epstein comme une, et je cite, « distraction pour le travail de la famille royale ». Après avoir critiqué lors d'une interview accordée à la BBC, c'était le week-end dernier, eh bien le prince Andrew a déclaré qu'il regrettait ses relations avec l'homme d'affaires américain. Le commentateur royal Dickie Arbiter a déclaré que le prince Andrew n'avait pas réussi à gérer la crise et avait plutôt aggravé la situation. On l'écoute.
Well, it has backfired in the most spectacular way, but I'm not surprised that he stepped back. I was saying as such on Monday, I was tweeting as such on Sunday, that it was inevitable. It couldn't go on like this.
Voilà donc pour la famille royale. Un témoignage gênant pour Donald Trump dans l'enquête sur la procédure de destitution. Gordon Sondland, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, affirme avoir suivi les ordres de la Maison-Blanche, tout simplement. Et selon lui, il y a eu un donnant-donnant pour organiser une visite du président ukrainien à Washington. Il explique également avoir suivi à la lettre les conseils de Rudolph Giuliani. Écoutez-le.
Je sais que les membres de ce comité évoquent fréquemment ce sujet compliqué sous la forme d'une simple question. Y a-t-il eu une contrepartie ? Comme je l'ai dit plus tôt, en ce qui concerne l'appel de la Maison-Blanche et la réunion à la Maison-Blanche, la réponse est oui. Monsieur Giuliani a fait savoir au secrétaire Perry, l'ambassadeur Volcker et d'autres que le président Trump voulait une déclaration publique du président Zelensky s'engageant à ouvrir une enquête sur Burisma et sur l'élection de 2016. Monsieur Giuliani a directement exprimé ses requêtes aux autorités ukrainiennes et Monsieur Giuliani nous en a aussi directement informés. Nous avons tous compris que ces préconditions pour un appel téléphonique de la Maison-Blanche et pour une visite à la Maison-Blanche reflétaient les désirs et les exigences du président Trump.
Voilà donc les propos traduits de Gordon Sondland, l'ancien ambassadeur américain auprès de l'Union européenne. Direction Hong Kong maintenant, un haut responsable a déclaré que le gouvernement prenait en charge le dossier des manifestations et cherchait à ouvrir le dialogue sur le développement futur de la ville. Certains manifestants anti-gouvernementaux sont à l'université polytechnique et refusent de quitter le campus. Ils craignent d'être arrêtés. Le siège de la police sur le campus a commencé dimanche et il reste moins de 100 manifestants alors que les responsable de la ville tente de rétablir l'ordre public. La secrétaire de la justice de Hong Kong, Teresa Chung Yuk-hwa, elle a déclaré que la police continuerait à exercer ses fonctions de droit commun. On l'écoute.
This has moved into another stage that has to be dealt with. And the government of Hong Kong is looking at that in very pragmatic ways to deal with the situation that we have here in that we have in Hong Kong.
13h09, direction de l'Éthiopie maintenant, la province du Sud. Les opérations de vote sont maintenant terminées. Les électeurs de cet État étaient essentiellement rural, qui représente 4% des 105 millions d'Éthiopiens, s'étaient rendus aux urnes. L'enjeu, la création d'un nouvel État. Les explications avec Léonard Vincent.
Mercredi, aux premières heures du jour, de longues files ont commencé à se former devant les bureaux de vote. Les opérations se sont déroulées dans le calme toute la journée. Les électeurs se sont manifestement déplacés en masse. On devrait connaître rapidement les résultats définitifs du référendum, mais les observateurs s'attendent déjà à ce qu'une large majorité de Sidama se soit prononcée pour la chafeta, la jarre traditionnelle, qui figure le oui sur leur bulletin de vote. Concrètement, cela signifiera qu'une réforme constitutionnelle va désormais devoir être lancée au niveau fédéral pour entériner l'entrée dans la fédération éthiopienne d'un nouvel État, le Sidama, en plus des 9 autres qui existent déjà. Mais l'issue de ce référendum va aussi poser de nouvelles questions. Il va falloir par exemple organiser la capitale Hawassa, qui compte une importante communauté de non-Sidama, et légiférer aussi sur les minorités nombreuses vivant dans le nouvel État, leur statut, leur intégration dans l'appareil administratif et le jeu politique. Bref, transformer radicalement ce petit bout d'Éthiopie en s'efforçant de préserver la paix civile, alors même que cet immense pays qu'est l'Éthiopie traverse une crise. Une crise qui fait ressurgir les querelles historiques entre les peuples qui forment la fédération.
Et c'était un reportage de Léonard Vincent pour RFI. 13h10, direction Malte maintenant. Un homme d'affaires a été arrêté sur son yacht. C'est une arrestation en lien avec le meurtre en 2017 d'une journaliste dans le pays. L'homme tentait de quitter le pays au moment de son arrestation. Le suspect a été identifié comme Jorgen Fenech. Écoutons la réaction de Corinne Veilla, c'est la sœur de la journaliste assassinée.
Ma première réaction, c'est que cette avancée est la bienvenue, ainsi que le fait qu'il y ait eu d'autres arrestations. Parce qu'il était évident pour nous, depuis le début, que les trois hommes qui avaient été arrêtés précédemment n'avaient pas agi de leur propre initiative. Nous savons que son assassinat est lié à son travail. C'est une grande opportunité pour la justice de notre pays que l'enquête avance. Ce qui nous importe, c'est que la justice soit faite. Pas seulement pour son meurtre, mais aussi par rapport à son travail. Son assassinat était lié à son travail. Emprisonner ses meurtriers n'est pas suffisant. Les gens qu'elle dénonçait doivent faire face à la justice.
Coup d'œil météo maintenant à travers le pays. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 21. À Melbourne, 39 degrés. Mais attention, un cool change, comme on dit, un changement de température aura lieu vers 4h30-5h. Et on va perdre beaucoup. Il risque de faire 20 degrés à peu près vers 17h. À Hobart, 33 degrés. Canberra, 38 degrés. À Sydney, 28. Brisbane, 29. Cairns, 31 degrés. Et à Darwin, il fait chaud également, 35 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour ce jeudi 21 novembre. Les incendies dans le pays qui continuent alors que la température, on vient de voir, continue de monter à travers le pays. Une nouvelle réforme du monde de l'hôpital en France. Le gouvernement essaie de calmer la gronde qui monte dans le monde hospitalier. Et à Malte, l'arrestation spectaculaire d'un millionnaire sur son yacht sur l'enquête d'un meurtre sur un meurtre d'une journaliste. 13h12, courte pause et on se retrouve pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.